Radio Okapi.
Le journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, la prison centrale de Makala à Kinshasa a enregistré 505 décès de janvier à ce jour à cause, entre autres, du nombre très élevé de prisonniers dû à la lenteur des procédures judiciaires. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête de la Fondation Bill Clinton pour la paix, publié hier mercredi ici à Kinshasa. En Ituri, le premier lot de 162 cartons des matériels électoraux est arrivé hier mercredi à Mahagi, 170 km au nord-est de Bounia. C'est grâce à l'appui logistique de la MONUSCO qui a facilité le transport face aux défis sécuritaires et infrastructurels. L'invité de ce journal est l'ingénieur en charge de la logistique au sein de l'entreprise Procom, propriété commerciale Mwanda. Abigail Mbumba parle du déroulement des travaux de construction des ouvrages dans le cadre du PDL 145 territoire dans le territoire de Sekebanza au Congo central. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonjour, bienvenue et bonne écoute. La situation dans les prisons et cachots de la RDC reste dramatique, principalement dans la prison centrale de Makala à Kinshasa. De janvier à ce jour, cette maison carcérale a enregistré 505 décès. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête sur le non-respect de la prononciation des arrêts dans le délai prévu et les violations massives des droits de l'homme dans les cours des tribunaux. Ce rapport a été publié hier mercredi à Kinshasa par la Fondation Bill Clinton pour la paix. Emmanuel Collé, son président, demande au gouvernement à travers les ministères de la Justice et des Droits humains de tout faire pour le désengorgement des établissements pénitentiaires et l'accélération des procédures judiciaires. Des détails avec Grâce Hamzati Massanzi.
Construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison centrale de Makala en compte à ce jour plus de 13 000, rapporte la Fondation Bill Clinton pour la paix. La majorité d'entre elles sont des prévenus, précise Emmanuel Collé. Le rapport ajoute que même à la prison de Ndolo, deux décès sont enregistrés cette année. La Fondation Bill Clinton pour la paix dénonce également la détention à ce jour de plusieurs personnes dans les cachots qu'elle qualifie de mouroirs, de l'ex de Miap et de l'ANR dans des conditions infrahumaines. À cela s'ajoutent des arrestations arbitraires, des enlèvements, des emprisonnements illégaux ainsi que la lenteur des procédures judiciaires. S'agissant du processus électoral, l'ONG déplore les menaces faites à certains candidats de ne pas battre campagne dans certaines provinces ou localités. Face à ces tableaux sombres de la situation des droits de l'homme, la Fondation Bill Clinton pour la paix recommande au chef de l'État de procéder à la fermeture de tous les cachots clandestins compromis lors de sa campagne électorale de 2018 et de veiller au bon fonctionnement de la magistrature à tous les niveaux. Au ministère de l'Intérieur, de veiller à la sécurisation de tous les candidats sans distinction. Aux autorités judiciaires, de faire respecter le délai des verdicts conformément à la loi. Enfin, à l'Organisation des Nations Unies d'envisager une enquête sur les détentions illégales et les causes des décès, conclut les rapports.
Rendre effective et opérationnelle la présence du personnel féminin dans les milieux pénitentiaires, c'est l'un des objectifs de l'atelier qui s'est tenu hier mercredi à Kinshasa. Organisé par la direction du service pénitentiaire du ministère de la Justice avec la collaboration de la MONUSCO, cette rencontre vise également à sensibiliser le personnel pénitentiaire féminin sur le genre dans les prisons de la RDC. C'est ce qui explique Gloire Ndombe, chef de bureau chargé de la numérisation des dossiers des détenus au sein de la direction des services pénitentiaires et point focal genre. Gloire Ndombe est au micro de Paul Matendo.
Dans les milieux pénitentiaires, on a pu constater qu'il n'y avait pas vraiment une forte représentativité du genre. Et donc, pour les détenues femmes et même pour le personnel pénitentiaire féminin, lors de l'atelier retraite qu'il y a eu en 2020, c'était un atelier qui a réuni toutes les femmes pénitentiaires de la RDC. Et donc, à l'issue de cet atelier, il y a eu des recommandations. Et parmi les recommandations, c'était mettre en place des bureaux qui vont traiter sur des questions liées au genre en milieu carcéral. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de réaliser cette recommandation-là. On a commencé d'abord par les prisons de Kinshasa et après, nous allons pouvoir aller dans d'autres prisons des provinces. Et grâce à la MONUSCO, on a pu avoir des bureaux au sein des prisons. Et nous saisissons vraiment cette occasion pour dire merci à notre partenaire pour son appui technique et financier.
Et pendant ce temps, en Ituri, ici déplacés, dont 4 enfants et une femme sont décédés mardi dernier de malnutrition et par manque de soins médicaux dans les sites de déplacés de l'ISP à Bounia. Selon la présidente des femmes du site, de nombreux déplacés souffrent de diverses pathologies telles que l'anémie et la fièvre typhoïde. Elle sollicite l'intervention du gouvernement et de ses partenaires pour réduire la mortalité des personnes déplacées. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les conditions de vie des déplacés du site de l'ISP Bounia restent précaires à cause du manque d'assistance en vivres et non-vivres. Depuis près d'un an, les humanitaires ont suspendu l'assistance alimentaire, précise le comité des déplacés. Emerence Madassi, présidente des femmes du site, indique que la situation s'est aggravée pendant cette période de pluie. Certains passent nuit à l'extérieur et exposés aux intempéries en raison de l'écroulement de leurs abris construits depuis 2018. Mardi, dans la mi-journée, 6 personnes, dont 4 enfants et 2 adultes, ont rendu l'âme faute des soins. Emerence Madassi déplore cette situation qui nécessite, selon elle, une intervention urgente des autorités et des humanitaires. Ses habitants demandent aux candidats qui seront élus lors du scrutin du 20 décembre prochain d'inscrire en tête de leurs priorités la sécurisation de leur localité d'origine pour leur permettre de rentrer, pour reprendre leurs activités et une vie normale. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les élections, c'est dans 13 jours. En attendant, l'acheminement des matériels électoraux se poursuit à travers le pays. En Ituri, le premier lot de 162 cartons de ce matériel est arrivé hier mercredi à Mahagi, territoire situé à 170 km au nord-est de Bounia. Selon le chef d'antenne locale de la CENI qui les a réceptionnés, le déploiement de ce matériel confirme la tenue des élections à la date fixée par le calendrier électoral. Cela, ajoute Monique Béraud, grâce à l'appui logistique de la MONUSCO qui a facilité les transports face aux défis sécuritaires et infrastructurels. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
Ce premier lot de kits électoraux est composé de matériels consommables qui seront utilisés dans les bureaux de vote, notamment des tampons, l'encre de l'ébile, des calculatrices, BIC et autres fournitures. Selon la chef d'antenne de la CENI, Mahagi, ces kits viennent répondre à un grand besoin dans les préparatifs des opérations du 20 décembre prochain. Monique Berochan salue le soutien de la MONUSCO qui a facilité les transports de ces matériels de Bounia jusqu'à Mahagi.
Nous sommes à quelques jours des élections. Nous avons besoin de réunir tous les matériels qui nous serviront le 20 décembre. Faire parvenir ces matériels par route, ça pose un peu de problème. Si la MONUSCO a songé nous soutenir, ça fait vraiment notre joie. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois. L'autre fois aussi, ils nous ont assistés.
Selon les chargés de logistique au secrétariat exécutif de la CENI, en Ituri, le deuxième lot de matériels électoraux réceptionnés déjà à Bounia seront expédiés à Mahagi dans les prochains jours. Au moins 9 475 kilos, soit plus de 9 tonnes de matériels électoraux seront déployés dans les 226 centres de vote dans l'ensemble du territoire de Mahagi. Des retours de Mahagi, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et sur le terrain, les candidats présidents de la République, notamment, continuent à battre campagne. Lors de son passage hier mercredi dans la province de l'Ituri, Constant Mutamba a déclaré, je le cite, « Je serai le candidat qui ramènera la paix en Ituri et qui éradiquera tous les groupes armés qui écument la partie Est et tous les pays en général. » Fin de citation. Par ailleurs, au cours d'un point de presse à Bounia, le candidat numéro 2 a promis à la population de l'Ituri de centraliser toutes les richesses du sol et du sous-sol que regorge cette province pour son émergence. Constant Mutamba, dans cet extrait sélectionné par Ezekiel Mouzalia.
Mais je suis venu rassurer la population de l'Ituri que je serai le président qui ramènera définitivement la paix ici et qui éradiquera tous les groupes armés. Je suis venu également dire à la jeunesse que moi, Constant Mutamba, je suis la réincarnation de Patrice Emery Lumumba pour redonner la véritable indépendance au peuple congolais. Libérer le peuple congolais du joug néocolonial. Et donc, je reviens pour dire aux miens que je suis leur frère, je connais leurs souffrances, je connais leurs malheurs et je vais apporter des réponses appropriées pour que Ituri soit totalement désenclavé. Il n'y aura plus d'exportation de nos minerais à l'état brut. Nous allons inviter toutes les multinationales à venir investir, implanter, à installer leurs succursales ici en Ituri pour transformer l'or, les minerais de l'Ituri.
Et par ailleurs, le docteur Denis Mukwege, Candidat numéro 15 a demandé à la population de la Tchopo d'être vigilante et de ne pas se laisser tromper pour la quatrième fois consécutive. Appel lancé hier mercredi dans la soirée au cours d'un meeting de campagne tenu à l'esplanade de la Grand Poste de Kisangani. Une occasion pour le prix Nobel de la paix 2018 de décliner les trois priorités de son action gouvernementale. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Kisangani, troisième ville du pays, n'a pas du tout changé depuis qu'il l'a quitté après trois ans de service, dont les années 96, 97 et 98, souhaite exclamer le docteur Denis Mukwege de l'entame de son adresse à la population. Ville au carrefour de l'Est, du Nord et de l'Ouest, pour rallier n'importe quel autre coin du pays, Kisangani est devenu méconnaissable, regrette le prix Nobel de la paix 2018. Pas d'eau, ni d'électricité, ni encore moins de travail pour les jeunes, faute d'entreprise. Il rappelle son importance sur le plan politique, à l'issue faite ici à Patrice Emery Lumumba, parti d'ici pour réclamer l'indépendance du pays. Denis Mukwege se dit prêt à sortir le peuple congolais de l'asservissement d'où il est maintenu depuis 30 ans par les mêmes dirigeants, dit-il. Pour cela, il s'assigne trois priorités, à savoir la paix, l'agriculture et la lutte contre les vices ou la mauvaise gouvernance. Par rapport à la sécurité, il a stigmatisé les conflits intercommunautaires de Lubunga et déplore les conditions de vie et de travail des militaires et policiers. Il promet de moderniser et d'équiper ses services afin qu'ils assument pleinement leur mission régalienne. Concernant l'agriculture, ils s'engagent à la révolutionner en créant une usine de transformation agroalimentaire. Enfin, Denis Mukwege promet de lutter contre les vices et les antivaleurs. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le candidat président de la République, Kemal Lilo, a promis à la population de Boende, chef-lieu de la province de la Tchouapa, une réforme sans précédent de l'armée, des services de sécurité, de la police, ainsi que de la justice, tant civile que militaire. Pour lui, la prospérité du pays ne profitera pas seulement à un groupe d'individus, mais plutôt à tous les Congolais sans exception. Moïse Katumbi a quant à lui clôturé sa tournée dans les Grands Équateurs hier mercredi dans le cadre de la campagne électorale, tandis que Félix Tshisekedi était hier à Likasi et Adolphe Muzito à Kananga dans le Kasaï central. Tout à fait autre chose à présent. En République démocratique du Congo, traduire un criminel de guerre devant la justice. Film documentaire d'Entabo Tabéry Sheka, ancien chef de groupe armé NDC Ndoumé Defense of Congo. Il a été projeté hier mercredi à Kinshasa dans une cérémonie organisée par la Haute Cour militaire et l'Auditorat général des FARDC en partenariat avec la MONUSCO. L'objectif poursuivi étant de présenter les résultats d'une justice fonctionnelle, sensibiliser l'audience à la répression des crimes graves dans un procès ayant servi d'illustration du principe de complémentarité de la justice pénale internationale. Reportage de Jeff Ngoy.
Le premier président de la Haute Cour militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katalay, justifie l'impact de ce film documentaire et l'affaire Sheka considérée emblématique.
L'affaire est emblématique en raison du nombre, plus de 300 victimes qui étaient parties civiles. Ça c'est un. De deux, il n'y a pas que ces actes qui ont été jugés par la Cour militaire opérationnelle.
L'apport de la MONUSCO dans cette procédure et ce documentaire sont expliqués par son représentant adjoint à Dingadessé, Bruno Lomarki.
Ce film présente le résultat d'une justice engagée, une justice fonctionnelle, illustre le rôle essentiel joué par la coopération entre les autorités des différentes entités du système des Nations Unies.
C'est en 2010 qu'une coalition de groupes armés dirigée par Sheka attaque 13 villages dans les territoires de Walikale et Masisi au nord Kivu. Ces attaques se soldent par pillage, meurtre, des dizaines de cas de crimes de guerre incluant des violences sexuelles. 387 femmes et filles sont violées. Tout cela se réalise en 4 jours. À l'issue d'un procès tenu entre 2018 et 2020, le chef de NDC et sa bande sont condamnés à perpétuité pour crimes de guerre, y compris par viol et esclavage sexuel.
Nord Kivu, en bref, depuis plusieurs années, les responsables du groupe armé Ngolenge s'adonnent à des crimes graves et des crimes contre l'humanité dans les territoires de Lubero. Révélation faite par un ex-combattant de ce groupe armé, dirigé par le général autoproclamé Mboneza. Selon cet ex-combattant, ce chef rebelle s'illustre dans les recrutements d'enfants et l'exécution des civils kidnappés et détenus dans ces campements.
Actualité internationale.
Dans un communiqué commun diffusé hier mercredi, les présidences de la Mauritanie et du Tchad annoncent mettre un terme à l'existence du G5. Ce week-end, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé qu'ils quittaient cette coalition militaire. Le Mali en avait déjà claqué la porte en mai 2022. Washington accuse les factions Washington accuse les factions rivales de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Soudan. C'est la conclusion du département d'État américain. Les deux camps qui se disputent le pouvoir depuis la mi-avril sont visés l'un davantage que l'autre.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'ingénieur en charge de la logistique au sein de l'entreprise Procom, propriété commerciale Mwanda dans le Congo central. Abigail Mbumba parle du déroulement des travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, notamment dans les territoires de Sekebanza. C'est sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Abigail Mbumba s'entretient avec Paul Matendo.
Madame Abigail Mbumba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous dites que vous êtes arrivé presque à la fin du contrat qui vous a été confié. Dites-nous comment ont évolué les travaux dans les différents chantiers.
Bon, en gros, c'était bien. Quoique, c'était pas facile du tout pour en arriver là parce qu'avoir 20 sites, commencer, travailler, arriver jusqu'à la fin comme ça, c'était pas vraiment facile. Vu certaines réalités que nous avons rencontrées sur terrain. Quoique nous ne pouvions pas nous plaindre parce qu'on avait accepté que nous serions en mesure de réaliser les projets. Nous avons fait tout ce que nous avons pu faire et voilà, nous voici à la fin. Quoique c'était sécure, c'était pas facile, il y avait beaucoup de contraintes. Mais par la grâce de Dieu aussi, on ne peut pas le nier, on a pu relever tous ces défis et voilà, presque à la fin.
Ce n'était pas facile, vous êtes à quelle phase à ce jour précisément?
Dans la plupart des sites, il y avait déjà les réceptions techniques. Nous attendons maintenant la CFF, comment vous allez organiser les choses avec le gouvernement pour procéder aux réceptions provisoires.
Nous sommes ici devant un centre de santé. Est-il construit selon les normes?
Tout ça a été construit suivant le plan qui nous a été soumis, ce qui est vrai. Il y avait des gens qui ont fait certaines études au préalable. Nous sommes venus pour exécuter les études qui ont été faites. Nous avons fait ce qui nous avait été demandé de faire. C'est de construire, nous devons construire le bâtiment, équiper les éléments qui étaient sur notre contrat, ce qui nous avait été demandé d'équiper. C'est-à-dire les barques, les banquettes, les tables, tout ce que vous voyez là, les éléments nécessaires qui nous a été demandé de mettre. On a mis ce qu'on a, on a pu mettre ce qui nous a été demandé de faire. Et le reste, quand nous allons livrer les bâtiments, je ne sais pas, c'est le gouvernement, celui qui saura qu'est-ce qu'il faudra ajouter pour que la chose devienne vraiment complète.
Selon le plan, il y aura aussi une salle d'accouchement.
Bien sûr, oui, les plans là, on peut montrer, vous pouvez voir les différentes salles, il y a les salles d'accouchement, il y a tout, il y a tous ces éléments-là. Mais nous avons mis ce qui nous avait été demandé de mettre.
Maintenant que vous êtes presque à la fin de votre contrat, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement?
Bon, ce que nous pouvons demander au gouvernement est de multiplier ces genres de projets humanitaires qui pourront aider des Congolais dans même des endroits reculés. Parce qu'il y a même un hôpital où on a construit un centre de santé vers Mazibidi. C'est maman, le jour qu'elle nous a vus, elle s'est dit, s'il y avait cet hôpital-là, des ans avant, son enfant ne mourrait pas, n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que son enfant était malade. Le temps de sortir à un endroit où il y avait un grand centre, son enfant était mort en cours de route. Et s'il y avait un tel centre déjà chez eux, son enfant n'allait pas mourir. Vous voyez, donc de tels projets, c'est bien pour aider toute la population congolaise de bénéficier, d'avoir cette joie-là d'habiter dans son pays, c'est un peu ça. Nous demanderons juste au gouvernement, comme vous venez de me poser la question, de multiplier ce genre de projet qui sera bénéfique pour tout le peuple congolais, surtout dans des milieux un peu reculés, dans des coins un peu reculés, les écoles, les centres de santé, les forages, beaucoup, beaucoup de projets feront en sorte que tout le peuple congolais ait la joie de vivre dans son pays.
Vous êtes une seule femme ingénieure. Comment vous vous sentez parmi les hommes?
Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Je travaille dans un milieu où il y a plus d'hommes que de femmes. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors quand même bien et je suis fière.
Pas de complexe?
Non, même pas un peu.
Madame Abigail Mbumba,
merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invité, l'ingénieur en charge de la logistique au sein de l'entreprise Procom, propriété commerciale Mwanda dans le Congo central. Abigail Mbumba s'entretenait avec Paul Matendo. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Je vous en rappelle rapidement les principales articulations. La prison centrale de Makala à Kinshasa a enregistré 505 décès de janvier à ce jour à cause, entre autres, du nombre très élevé de prisonniers dû à la lenteur des procédures judiciaires. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête de la Fondation Bill Clinton pour la paix publié hier mercredi à Kinshasa. En Ituri, le premier lot des 162 cartons des matériels électoraux est arrivé hier mercredi à Mahagi, 170 km au nord-est de Bounia. C'est grâce à l'appui logistique de la MONUSCO qui a facilité le transport face aux défis sécuritaires et infrastructurels. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.